Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de TDAH. Je vais te parler un peu de moi et de mon TDAH. Ce qui est vraiment le TDAH, donc avec les symptômes et les caractéristiques. Pourquoi c'est important de savoir qu'on a un TDAH et comment être diagnostiqué. Alors, pour commencer, c'est quoi un TDAH? Donc, un TDAH, c'est l'acronyme de trouble dysfonctionnel de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est en fait un trouble neurodéveloppemental que l'on a. Le TDAH, il affecte notre capacité à nous concentrer, à contrôler nos impulsions et à réguler nos émotions. Mais pas que, il y a des choses qui sont encore plus profondes que ça. Les scientifiques, ils ont remarqué qu'on avait un retard dans les fonctions exécutives, donc ce qui est en fait dans ton cortex préfrontal, la partie de ton crâne avant. Et les fonctions exécutives, c'est ce qui va te permettre de planifier, d'organiser et de terminer des tâches, de passer avec fluidité d'une tâche à une autre, d'avoir une mémorisation à court terme, donc ce que tu lis, entends, ce que tu dis, de réguler tes émotions et de freiner en fait une réponse ou un comportement. Le TDAH, c'est pas une maladie. Et tout le monde n'a pas un TDAH. Alors, certes, les symptômes peuvent parler à tout le monde, mais pour une personne ayant un TDAH, ces symptômes que je vais te dire et les caractéristiques sont chroniques et fréquents plus dans le quotidien d'une personne qui a un TDAH. Pour mon histoire avec le TDAH, en fait, j'ai pas toujours su que j'en avais un. J'ai toujours eu du mal à l'école pour me concentrer, m'organiser, retenir les devoirs, tout ça. Et même dans mon quotidien. Mais par chance, en fait, j'avais des parents qui étaient toujours derrière moi. Ils voyaient mes difficultés, mais en fait, personne n'a suspecté que j'avais un TDAH. Et je pense sincèrement que c'était encore bien trop peu connu. Donc du coup, on m'a juste diagnostiqué ma dyslexie. Et sache que tu peux avoir des troubles d'apprentissage qui sont liés à ton TDAH, donc comme les troubles 10. Et c'est seulement vers l'âge de 28 ans que j'ai découvert que j'avais un TDAH. Alors, je ne me suis pas fait diagnostiquer par un professionnel de santé, parce que pour moi, je suis sûre à 99% d'en avoir un, et je ne vois pas la nécessité d'aller voir un professionnel de santé, surtout que je ne veux pas être sous traitement. C'est mon choix, chaque personne fait ce qu'il veut. Donc du coup, pour faire mon autodiagnostic, je me suis aidée du test diagnostic DIVA qui est basé sur les critères du DSM-4. Et du coup, en ayant découvert mon TDAH, j'ai ressenti beaucoup de colère et de tristesse aussi parce que je me revoyais enfant. C'était comme si c'était une ouverture, tu vois, de toutes mes difficultés. Et en fait, je me disais, ah oh, punaise, c'est pour ça que j'ai peiné autant, que ça venait de là. C'est pas que j'étais bête, c'est pas que j'étais... J'étais folle ou que j'étais pas intelligente. Non, c'est que vraiment, j'ai cette particularité, j'ai un TDAH. Et je pense que si j'avais pu être détectée plus tôt, j'aurais appris déjà à me comprendre et à trouver des astuces. Même mes parents auraient pu m'aider à comprendre s'ils avaient été mis au courant de ce qu'était le TDAH et ils auraient pu savoir comment m'aider. Et aussi, j'aurais pu avoir une aide à l'école. C'est pour ça que ça me tient vraiment à cœur de parler du TDAH. Parce que c'est encore trop peu connu. Et pour nous, les personnes TDAH, quand on ne sait pas qu'on en a un, on ne se comprend pas, on se sent nul, on se sent à part, à l'écart, en fait, par rapport aux autres. Et puis, personnellement, je trouve que la société n'est pas pour les neuroatypiques. Je trouve qu'il faut qu'on rentre dans un moule, qu'il faut qu'on soit comme ça, et pas autrement. Déjà, nous, on se compare énormément, en fait, par rapport aux autres personnes qui ont des facilités. Et de vouloir rentrer absolument dans ce moule... J'ai l'impression, pour moi en tout cas, c'est encore plus difficile, quoi. Donc, personnellement, je pense sincèrement que c'est pas à nous de nous adapter au moule de la société, à être comme ça parce qu'il faut plaire, parce qu'on doit être comme ça. C'est d'adapter les choses par rapport à qui nous sommes et à notre fonctionnement. Vraiment, c'est ça qui me parle le plus et je pense qu'on devrait tous faire ça, même si c'est difficile. Mais c'est pour ça qu'il faut mettre de plus en plus en lumière ce trouble. Alors, je vais te parler des caractéristiques et des symptômes du TDAH. Donc, dans le TDAH, on a trois grands symptômes. Donc, ce que tu vas retrouver, c'est l'inattention, l'hyperactivité et l'impulsivité. En te disant les caractéristiques, en fait, des trois grands symptômes du TDAH, je vais te raconter un peu aussi un peu ma vie, entre guillemets, et je vais te dire un peu mes dilemmes et comment est-ce que je vois ça dans mon quotidien, en fait. Donc, dans l'inattention, les caractéristiques que tu vas retrouver, ça va être une difficulté à s'organiser et à planifier des tâches. Alors, ça pour moi, c'est le plus gros dilemme. J'arrive pas à voir ce qui est le plus important. Tu vois, je vais avoir toute une to-do list, parce que je sais que j'ai des choses à faire, mais j'arrive pas en fait à prioriser. Quelle est la tâche à prioriser? Et en fait, ça me bloque. On appelle ça une paralysie aussi. Alors, j'ai plus le nom exact. Mais en fait, je suis bloquée à me lancer dans une tâche. En plus, j'ai une mauvaise gestion du temps. Parfois, je vais penser qu'une tâche va me prendre énormément de temps, alors que non, en fait, ça peut être fait en 15 minutes, même pas. Et parfois, je vais me lancer dans une grosse tâche en me disant que j'aurai le temps, par exemple avant d'aller à un rendez-vous, tout ça, mais alors que pas du tout. Donc, tu peux retrouver ça, ou alors à l'inverse, il y a des personnes qui vont compenser cette difficulté en passant un temps fou à s'organiser, et même du coup, par rapport à la gestion du temps, ils vont arriver très très tôt à leur rendez-vous. Dans l'inattention, tu peux aussi avoir une difficulté à tenir ta concentration. Alors moi, j'ai remarqué que ma concentration était très limitée. Je décroche facilement. Moi, vraiment, ça peut être 15 à 30 minutes maximum. Donc la méthode Podomoro m'aide pas mal pour certaines choses. Ça dépend vraiment en fait. On va être aussi dans l'hyperfocalisation. Donc en gros, ça veut dire qu'on est hyper focus, donc concentré plus sur quelque chose qui va nous intéresser énormément. Et on peut carrément oublier de manger ou même retarder notre sommeil. Donc ça, tu vois, ça me parle énormément parce que je peux rester des heures, des jours sur un sujet qui me passionne. Et s'il y a quelque chose qui ne m'intéresse pas, je vais vite m'ennuyer et pas réussir à me concentrer. Donc vraiment, tu vois, c'est le côté paradoxal du TDAH. C'est tu peux, si tu t'ennuies, tu vas pas réussir à te concentrer ou ta concentration va être très très limitée. Si t'es sur un sujet qui te passionne, tu peux pas t'arrêter. Souvent, on entend aussi « Ah oh bah oui, mais tu pourrais plus te motiver, ça pour ça t'y arrives, mais pour ça d'autres t'y arrives pas. » C'est juste en fait que le sujet nous passionne en fait. C'est juste ça pour les personnes TDAH. On va être majoritairement plongé dans nos pensées. Du coup, on a beaucoup d'idées, mais on ne parvient pas à les retenir en fait. Ce qui m'aide vraiment, c'est d'avoir un carnet pour marquer mes idées directes ou sur mon téléphone dans l'application Notes. Et parce que je sais que je m'en souviendrai pas, ou alors je vais m'en souvenir, mais hyper tard quoi. On a aussi une mémoire courte, donc on oublie ce qu'on vient de nous dire, ce qu'on allait chercher. Moi personnellement, je peux avoir marqué quelque chose sur mon carnet, ou parler de quelque chose. Il y a des moments où je vais pas être capable de m'en souvenir de ce que je viens de dire ou ce que je viens d'écrire aussi. Par moments, tu vois, je reprends mon carnet et j'y pensais plus. Moi pour moi, je sais que le bloc-notes m'a beaucoup aidé. On a aussi une mémoire très sélective, donc comme l'hyperfocalisation, hein, si les sujets nous intéressent énormément, on va se souvenir des points importants. On a des oublis fréquents, donc tout ce qui est oubli de rendez-vous, oubli où est-ce qu'on a mis tels objets. Donc moi pour ça, sur ça, c'est vraiment bien, j'ai cette stratégie, ça a toujours été comme ça en fait. Je pense que mes parents ont toujours mis ça en place. C'est d'avoir un lieu, tu sais, quand tu arrives et tu mets tout là, les clés, tout ça, même un lieu où tu mets le sac. Et je sais que si ça bouge, ça va plus, ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'il faut que je passe du temps à chercher, en fait. Et je déteste ça. Si j'ai mis, par exemple, mes clés de voiture ailleurs que d'habitude, je vais passer au moins 5 minutes à les chercher. Donc, c'est vraiment la stratégie d'avoir un endroit quand tu arrives chez toi et quand tu pars, tu vois, avec tous les objets dont tu as besoin. On va être distrait rapidement. C'est difficile pour nous de suivre une conversation ou une lecture. Même dans des réunions. On est très distrait, en fait, par le moindre son. Même personnellement, moi, c'est quand c'est visuel aussi. Mes pensées aussi, je vais perdre ma concentration. Aussi, je ne sais pas si ça t'arrive. Moi, avec mon TDAH, si par exemple, je fais quelque chose, une tâche, tu vois, qui est importante et je me lance dedans, si j'ai dans mon visuel mon téléphone sur un côté, ou par exemple sur mon ordinateur, et tu sais, il y a plusieurs onglets, ça je pense que ça vient du TDAH, on a plusieurs onglets parce qu'on ne veut rien oublier, ça va être hyper intéressant à chaque fois on y retourne. Mais quand il y a plusieurs onglets et que je les vois, ça me distrait et je n'arrive pas à me concentrer sur la tâche que je veux faire. Donc je suis vraiment obligée de cacher mon téléphone, de mettre la page que je suis en train de faire où je travaille en mode plein écran et ne rien voir qui pourrait me distraire. Je ne sais pas si ça te parlera, mais n'hésite pas à me partager ça parce que je ne pense pas être la seule. On passe aussi du coq à l'âne. Donc, on fait des liens très rapides, en fait, par rapport à des sujets, tout ça. Et on change, du coup, de sujet fréquemment, sans transition. Donc, les personnes, bah, peinent à nous suivre, quoi, parce qu'on passe du coq à l'âne. Le deuxième symptôme, ça va être l'hyperactivité. Donc les caractéristiques que tu peux retrouver, ça va être le mouvement permanent. Donc ça veut dire qu'on se lève, se rassoit, on change de position quand on est assis. On ne peut pas rester assis pendant des heures. Moi, je ne peux pas, il faut que je bouge. Je ne peux pas rester assise bien droite, pas bouger, les pieds bien à plat et tout. Je ne peux pas. Moi, il faut que ça bouge. On a aussi une difficulté à se relaxer. Une difficulté à s'endormir. Donc le cerveau qui tourne en boucle et on peut être aussi réveillé par des bruits, des lumières ou des mouvements qui étaient pourtant discrets. Moi personnellement, j'entends tous les bruits, toutes les lumières qui peuvent vraiment être très très discrets, hein, qu'on n'entend presque pas. Et même les mouvements, je ressens, hein, je sais pas, c'est bizarre, mais quand je dors, ça peut me réveiller parce que j'ai senti qu'il y avait eu un mouvement. On peut aussi avoir une hyperactivité mentale, donc c'est-à-dire qu'on a des pensées à foison, énormément de pensées. Ça me paraissait important aussi d'en parler parce qu'on parle beaucoup de l'hyperactivité physique mais pas de l'hyperactivité mentale alors qu'elle existe, elle est bien là. Personnellement, moi je suis pas forcément hyperactive physiquement mais mentalement j'ai des pensées mais énormément de pensées. Donc ça fait aussi partie du TDAH et il n'y a pas que l'hyperactivité physique. On a besoin de faire plusieurs choses à la fois. Faut qu'on soit en fait assez stimulé pour pas s'ennuyer. Donc c'est pour ça que souvent on fait plusieurs choses à la fois. Mais qui peut nous mettre une pression en fait, un peu. Moi je sais si je fais trop de choses d'un seul coup, je suis dépassée et je me retrouve à rien faire et à être paralysée un peu. Donc faut apprendre en fait à prendre le temps pour chaque tâche. Et moi avec la technique Podomoro, ça m'aide pas mal en fait à me fixer un temps pour cette tâche. Et je ne fais que cette tâche-là, je ne fais rien d'autre. Et dans l'hyperactivité, donc tu peux retrouver aussi les micro-mouvements. Donc le fait de faire sautiller sa jambe, de bouger ses doigts. Alors on appelle ça du fidgeting. Moi je suis très concernée par ça. Moi, je ne peux pas m'arrêter de faire bouger mes pieds ou d'avoir quelque chose dans mes mains, tu vois. Même les stylos, de le faire tourner quand j'en ai un dans la main. Donc ça c'était les quelques caractéristiques de l'hyperactivité. Le troisième symptôme du coup, ça va être l'impulsivité. Alors ce que tu vas retrouver comme caractéristique, ça va être l'impatience, donc c'est très difficile pour nous d'attendre dans une file, au feu rouge, au téléphone. Donc, on va mettre un peu des guillemets, hein. C'est pas difficile d'attendre au bout d'une seconde, tu vois, mais au bout de 5-10 minutes, moi, ça commence à me, comment dire, à me chauffer. Je deviens très vite impatiente, en fait, et je sais que rien au téléphone, si c'est attendre pendant 5 minutes pour avoir quelqu'un au téléphone. Tu sais, quand t'appelles genre une assurance ou quand t'appelles pour ton téléphone et qu'il y a la musique et que t'es là, que ça fait 5 minutes que t'entends cette musique et que t'attends. Moi, ça monte très vite et je raccroche très vite tellement que ça me saoule. Donc, voilà pour la patience. On va avoir aussi un sens de filtre. Donc, en fait, on va dire tout ce qu'on pense sans filtre. Et ensuite, du coup, parfois, on le regrette. C'est très fréquent. Ça viendrait d'une inhibition. L'inhibition, en fait, c'est une capacité à stopper ou à freiner, en fait, une réponse ou un comportement pour que ça soit, en fait, adapté à la situation. Donc, nous, en fait, on a des difficultés sur ça. Et du coup, en fait, quand il y a une situation et que tu réagis, en fait, tu penses à quelque chose et ça sort direct. Mais en fait, après, tu t'en veux parce que tu n'aurais pas voulu réagir comme ça, mais tu n'as pas pu le contrôler. En fait, ça vient de ça, l'inhibition. C'est qu'on n'a pas, on a pas de frein pour nous empêcher de faire ce comportement-là ou de dire ça. Du coup, tout ça, c'est à trouver une stratégie pour ça. Ce n'est pas une excuse, hein, ce que je dis. C'est pas une excuse parce que tu as un comportement comme ça que ça explique tout. Non, c'est à nous de trouver une stratégie. Mais ça, j'y reviendrai plus tard dans un autre épisode. Mais ouais, voilà, donc tu vas dire tout ce que tu penses sans filtre. Et du coup, le regretter, même agir en fait sans réfléchir du coup, et ce qui fait qu'on ne pense pas aux conséquences. Donc, ça viendrait de l'inhibition. Ensuite, on peut couper la parole. Voilà, en fait, on va répondre aux personnes avant la fin de leur question ou terminer leur phrase. Alors, je ne sais pas pour toi, mais moi, à chaque fois, en fait, dans ma tête, j'ai déjà la fin de leur phrase ou la fin de leur question, en fait. Mais c'est comme si c'était une intuition, tu sais, au fond de toi, qui te disait... Ça, c'est la fin de leur phrase, de leur question. Et ouais, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est un ressenti intérieur, en fait, que tu sais la fin de cette phrase. aussi dans l'impulsivité, donc on peut s'emporter facilement. Sache que si tu as un TDAH, tu as de fortes chances d'être hypersensible. Et aussi, dans l'impulsivité, tu peux avoir des difficultés à faire des choix. Donc en fait, on est très souvent indécis. Et du coup, on peut faire des fois des choix précipités qui peut nous mener, pas forcément, hein, mais qui peut nous mener à faire des mauvais choix. Donc voilà pour les caractéristiques du TDAH avec les trois grands symptômes qui étaient l'inattention, l'impulsivité et l'hyperactivité. Sache que c'est une liste exhaustive, mais qui me parle assez, je me reconnais beaucoup dedans. Donc comme ça, j'ai pu aussi te partager un peu comment ça se présentait dans mon quotidien. Pour savoir si tu as un TDAH, il faut que tu aies plusieurs de ces critères, en fait, mais pendant au moins 6 mois. C'est pas parce que tu as un critère comme ça pendant un mois, un des critères que je t'ai cité peut-être ou que ça te parle, que si ça y est, tu as un TDAH. Non, non, il faut que ça soit plusieurs critères pendant au moins 6 mois. Et on dit que les adultes, c'est 5 critères d'inattention et ou 5 critères d'hyperactivité et impulsivité. Et pour les enfants, c'est 6 critères. Du coup, tu peux être diagnostiqué par un professionnel de santé, donc tel qu'un psychiatre, un neurologue. Vraiment, je te conseille de te tourner vers un professionnel de santé qui est formé sur le TDAH. Je pense que ça t'aidera mieux et il te comprendra mieux. Et pour savoir comment ça se passe pour se faire détecter, du coup, je pourrais pas te dire exactement et je préfère mieux être honnête avec toi. Parce que déjà, je me suis pas fait diagnostiquer, mais je crois avoir vu dans mes recherches, normalement, tu as un ou plusieurs questionnaires en fait que tu vas devoir remplir, qui seront par rapport à ton quotidien et qui feront en sorte de te faire diagnostiquer le TDAH. Le point important aussi, c'était pourquoi c'est important de savoir qu'on a un TDAH. Alors pour moi, c'est important déjà que tu puisses mettre des mots sur ces difficultés quoi que tu as pour enfin te comprendre et aussi savoir comment est-ce que tu fonctionnes, on va dire entre guillemets. Mais je sais que pour moi, l'ayant vécu, c'est hyper difficile. En fait, quand tu sais que tu n'as pas un TDAH, tu vois toutes les difficultés que tu as alors que tu y mets vraiment... beaucoup de travail derrière. Moi, je sais qu'à l'école, je mettais beaucoup de travail. J'essayais vraiment de retenir les choses, mais rien rentrait. Rien ne restait, si tu veux. Alors que vraiment, j'y mettais vraiment toutes mes tripes, quoi. Mais juste qu'en fait, c'était une façon d'apprendre qui n'allait pas, en fait, avec mon TDAH. Pour moi, quand on ne sait pas qu'on a un TDAH, ça va empâtir sur notre confiance en nous, sur notre estime de nous aussi. Déjà, de un, on ne se comprend pas et les autres ne nous comprennent pas. Et je trouve que ça nous met encore plus à l'écart de la société et des gens. Donc vraiment, de savoir que tu as un TDAH, c'est bénéfique pour ta santé mentale. Et aussi, ça va te permettre de savoir comment mettre les choses en place pour que ça te convienne et puis que ça t'aide au quotidien. C'est pas de se mettre une étiquette ou que c'est une excuse parce qu'on a un TDAH. Non, c'est vraiment pour se dire, ok, j'ai cette particularité, j'en suis pas responsable, mais je suis responsable de ce que je vais faire pour pallier à ça, tu vois. Ça va être de ma responsabilité de trouver des stratégies qui vont me convenir et qui sont adaptées à moi. Voilà, pour moi, c'est vraiment très important de mettre des mots dessus, mais ce n'est pas une excuse et ça va te permettre de trouver des stratégies qui sont adaptées à toi parce que ça ne sert à rien de te forcer à rentrer dans un moule qui ne te conviendra pas. Donc voilà, c'est hyper important aussi d'accepter notre particularité. Elle est là, on ne peut pas la changer, ça fait partie de nous. Je sais que c'est difficile au quotidien, vraiment, mais juste ce qu'on peut faire, nous, c'est de trouver en fait des astuces pour mieux vivre avec, en fait. Et pour vivre la vie que l'on veut. Vraiment, ça, c'est un truc c'est que ça me tient à cœur. Il y a des personnes qui ont réussi à atteindre plein de choses et qui ont un TDAH. Donc, c'est pas ça qui doit te freiner pour faire la vie que tu veux. Voilà, donc voilà pour cet épisode sur les caractéristiques du TDAH. N'hésite pas à me laisser une note, à me dire ce que t'en as pensé. Même si tu veux qu'on échange dessus, n'hésite pas à venir sur mon Insta. Ça sera avec grand plaisir d'échanger avec toi. Et je te dis à la prochaine pour un prochain épisode de podcast.